Donc, bismillahirrahmanirrahim, al-umuru allati yustamaddu minha al-iman. Donc là, on va étudier les choses à partir desquelles la foi prend sa source. وهي الأمور التي يزيد بها الإيمان ويرتقي بها العبد في مراتب المؤمنين. Donc on va voir en fait c'est quoi les choses et sont quoi les actions ou les choses qui font que la foi elle augmente et avec lesquelles le serviteur il augmente dans les degrés des croyants. الإيمان يستمد ويزيد من طريقين أساسيين هما العلم والعمل. Donc la foi elle est puisée et elle augmente avec deux chemins de base. Les deux bases de l'augmentation de la foi, c'est l'ilm, la science, et l'amal, l'action. L'action, c'est-à-dire, attention au mot action, action, c'est-à-dire agissement conformément à la science. Et en fait, et ça, la base de ça, c'est quand Allah dit Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. C'est Allah qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Et les anciens parmi les interprétateurs du Coran, ils disaient la guidée, c'est l'ilm, al-nafi', donc la science bénéfique, et din al-haq, c'est l'amalu salih. Donc la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle se résume en deux choses: ilm al-nafi' wa amalu salih. C'est ça la religion. C'est une science bénéfique et des actes à accomplir. Donc forcément, comme c'est ça la religion, c'est de ça que la foi elle va être puisée et c'est par ça qu'elle va augmenter. Awalan. العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدينه وللعلم طريقان الأول تدبر آيات الله التنزيلية ويتحقق بدراسة الكتاب والسنة على نهج وفهم السلف الصالح والأدلة على هذا كثيرة منها. Donc il dit premièrement la science d'Allah dans le sens, c'est-à-dire la science qui concerne Allah et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et la religion. Donc les trois bases que Mohammed ibn Abdel Wahhab il a expliqué dans son livre Al-Usul al-Thalatha. Et il dit il y a deux chemins pour la science. C'est le fait de réfléchir. Le premier des deux chemins, c'est le fait al-tadabbur. Tadabbur, c'est le fait de cogiter, méditer, etc. sur les signes d'Allah qui ont été descendus. Parce que le mot ayah, il peut désigner trois choses. Trois choses. Le mot ayah, il peut désigner, dites-moi, qu'est-ce qu'il peut désigner? Les versets du Coran. Donc en fait, al-ayat ut-tanziliya, c'est de ça qu'on parle en premier, c'est la religion en fait. Donc les versets du Coran. La deuxième, al-ayat, c'est quoi? Comment? Miracle, mais de qui? Comme quoi par exemple? Parce que chez Hassan Moussa, donc ça c'est les miracles des prophètes qu'Allah leur a donné. Voilà, ça aussi c'est une des choses que les ayah qui peut s'appeler ayah. Et la troisième, ayat al-kawniya, les signes d'Allah dans sa création. Donc le premier chemin pour la science, c'est le fait de méditer, de réfléchir et d'étudier les signes d'Allah religieux, donc le Coran et la Sunna, en suivant la compréhension des sahaba. Et les preuves, bon, les preuves vous les connaissez, on va les citer. Qawluhu ta'ala أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Donc Allah il dit ne médite-t-il pas sur le Coran ou alors leur cœur porterait-il des cadenas. Donc قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Donc Allah il dit ce Coran guide vers la voie la plus droite. وقوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Donc il vous est venu d'Allah une lumière et un livre clair. Allah guide par lui, donc par ce livre, ceux qui suivent sa satisfaction au chemin de la paix. Il les guide au chemin de la paix et les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission et il les guide au droit chemin. Donc juste une parenthèse, quand Allah il dit ici Allah guide par ce livre ceux qui cherchent sa satisfaction. C'est que beaucoup Allah dans le Coran il répète, et ça c'est un problème dans l'esprit de beaucoup de gens. Il guide qu'Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha. C'est-à-dire Allah il guide qui il veut et il égare qui il veut. Et ça c'est une réalité, ça s'interprète pas yani. Donc il y en a ils disent comment yani Allah il peut égarer qui il veut et guider qui il veut. Ça veut dire une personne Allah il la guide, elle va aller au paradis alors qu'elle a même pas, elle a rien choisi, c'est Allah qui l'a guidée. Et une autre, Allah, il va l'égarer et elle va aller en enfer. Donc c'est, la personne, elle peut ne pas comprendre. Donc premièrement, on répond à ça par le fait qu'Allah, nous on croit qu'Allah, il n'est pas injuste. وَمَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Donc comme il dit Allah dans le Coran, ton Seigneur n'est injuste envers personne. Donc l'injustice, elle ne rentre pas dans les actes d'Allah. Les actes d'Allah, ils sont entre eux, Ar-Rahman ou Al-Fadl. Soit ils sont miséricorde, Ar-Rahman ou Al-Adl. Ou plutôt Al-Fadl ou Al-Adl. Soit les actes d'Allah, c'est une miséricorde envers l'être humain. Donc comme quelque chose en plus que l'être humain il a fait, qu'il ne méritait pas. Ou soit Al-Adl. Allah lui donne ce qu'il méritait. Que ce soit en récompense ou en châtiment. Donc ça c'est la première base, c'est de croire qu'Allah il n'est pas injuste. Et aussi, Allah quand il dit Yahdi man yasha wa yudillu man yasha, Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Donc on voit que la guidée de l'être humain et son égarement, ils dépendent de quoi? Non mais man yasha, donc ça veut dire la volonté d'Allah. Ils dépendent de la volonté d'Allah. Or la volonté d'Allah, de quoi entre guillemets elle dépend?
De la personne elle-même.
Non non mais je veux dire auprès d'Allah lui-même, yani. La volonté d'Allah, al-hikmah. Allah il veut des choses, yani, par hikmah. Il décide des choses par hikmah. Et ça c'est une caractéristique de Ahl Sunnah wa Jama'a. Ils disent que les actes d'Allah, ils ont tous une sagesse. Et que la volonté d'Allah, il y a toujours une sagesse. Donc si il guide telle personne ou il égare telle personne, c'est pour une sagesse. Donc pour une raison qu'il y avait dans cette personne qui fait qu'Allah sait qu'elle mérite d'être guidée ou d'être égarée. Et ces raisons, elles viennent de qui? Les raisons que la personne, elle mérite. Elles viennent de la personne en elle-même. Donc la personne, elle fait les causes qui fait que auprès d'Allah, elle sera guidée ou égarée. C'est comme... quand l'imam Ahmed, on avait expliqué, je pense, je sais plus si on l'avait fait dans des cours ou dans un khutbah, quand l'imam Ahmed il parle dans du verset Fariyah dharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna. Donc que craignent ceux qui divergent de l'ordre du prophète que ne les touche une fitna. Et l'imam Ahmed il a dit, sais-tu ce qu'est la fitna? C'est shirk. Peut-être que l'être humain va rejeter les ordres du prophète et alors il va être, Allah il va lui mettre une zère, c'est-à-dire une déviation dans son cœur. Donc qui c'est qui a fait la cause pour qu'Allah l'égare? C'est lui en rejetant les ordres du prophète. Et comme ici Allah il dit quoi? Allah guide par le Coran ceux qui recherchent sa satisfaction. Donc on comprend que le fait de vouloir plaire à Allah, c'est une cause pour laquelle Allah, par sa sagesse, il va te guider. Et il guide les gens. Vous avez compris un peu? Que le guider d'Allah et l'égarement, c'est pas comme ça, il y a des raisons, il y a des causes. Et parmi ces causes, les causes elles sont citées dans le Coran et la Sunna, et d'autres qu'Allah connaît, et parmi ces causes, le fait que la personne elle veut la satisfaction d'Allah, comme c'est cité ici. Wa qawluhu ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Voilà un livre que nous avons descendu qui est béni, suivez-le donc et craignez Allah afin qu'il vous soit fait miséricorde. Donc tout ça sont des versets en fait pour montrer le mérite du Coran et de suivre le Coran. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. C'est un peu mal imprimé, c'est pour ça que كتاب الله وسنتي. Donc j'ai laissé entre vous une chose, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez pas. C'est le livre d'Allah et ma sunna. وقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور المطالب التي تستفاد من هذا الطريق. Donc le hadith que vous connaissez, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, prenez donc, ou je vous conseille ma sunna et la sunna des califs bien guidés après moi, accrochez-vous-y avec vos molaires et faites attention aux nouvelles choses, c'est-à-dire al-bid'a dans la religion. Donc la suite du hadith, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc c'est-à-dire chaque chose nouvelle est une bid'a et toute bid'a est un égarement. Et ça, remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce conseil avant sa mort. Donc quel conseil il a choisi le prophète avant sa mort? Il a pas dit faites surtout attention aux juifs ou faites surtout attention à un homme qui s'appelle George Bush qui va venir dans 1400 ans, etc. Parce que par exemple, les non-musulmans, les plans qu'ils font et les Russes qu'ils font envers les musulmans, c'est quelque chose que n'importe quel musulman il sait. N'importe quel musulman il sait que les non-musulmans ils essayent, etc., de dévier les musulmans, etc. Mais le mal qui vient de chez les musulmans et qui prend la couleur de l'islam, ça c'est une chose vis-à-vis de laquelle beaucoup de musulmans ils sont insouciants et à laquelle ils font pas attention. Et ils croient que tout ce qui a la couleur de l'islam, on peut le prendre. Et tout ce qui se dit musulman, on peut le prendre. Et tout ce qui dit qu'il a de la science ou qu'il est docteur, on peut le prendre. C'est pour ça que le prophète, parce qu'Allah il connaissait l'insouciance des gens, il a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise dans ce conseil qui était avant sa mort, donc un de ses conseils les plus importants, vers quoi il a attiré notre attention pour nous mettre en garde, les innovations. Parce que les innovations, elles détruisent la religion elle-même. Et la religion, c'est la chose la plus importante dans cette vie. Donc remarquez, Yanné, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pas dit, si je dois vous mettre en garde contre une chose, c'est bien les juifs. Parce que maintenant, beaucoup de musulmans, ils passent leur temps à parler que des juifs. Or, les juifs, Allah, on n'a pas besoin de répéter tout le temps, Yanné. On sait qu'ils ne sont pas musulmans, on sait que la religion, elle n'est pas bonne, etc. C'est pas la peine de nous rabâcher toujours des khutbas entiers d'une demi-heure sur Israël. Ça n'a aucune faïda dans la religion. Alors que pendant ce temps-là, les musulmans, entre eux, il y en a plein qui racontent n'importe quoi dans la religion et qui mentent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui mentent sur la religion d'Allah, et tout ça on n'en parle pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait akhwafu ma akhwafu alaykum al-a'immatud dajjalun. Ce que je crains le plus pour vous, ce sont les imams trompeurs qui égarent. Donc si un khatib ou un da'i il veut mettre en garde contre quelque chose, met en garde contre la chose, premièrement la chose la plus importante contre laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde, qui est non, al-kufr d'abord, al-shirk, les associations, les genres de polythéisme qui naissent chez les musulmans, et les innovations aussi, et après les péchés. Et c'est pour ça que dans le Coran, vous voyez, au début de Surat al-Baqarah, Allah il met 4 versets pour décrire les croyants, 2 versets seulement pour parler des koufars, et si je ne me trompe pas, 13 versets pour parler des munafiqines. Munafiqines qui sont les gens qui extériorisent l'islam et qui cachent en eux la haine de l'islam. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, les musulmans, ils y font moins attention et ils sont plus dangereux parce qu'ils naissent chez eux et ils sont dans leur rang. Alors que les non-musulmans, leur mal, il est clair. Et c'est pas la peine de le rabâcher toujours aux gens. المطالب التي تستفاد من هذا الطريق طريق الكتاب والسنة هذا الطريق عام لكل ما يحتاج الإنسان إليه إلى معرفته لصلاح دينه من معرفة الله بالعلم أسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة حقه على عباده وتفرده بالألوهية والربوبية ومعرفة سنة الجارية في عباده وغير ذلك. Donc c'est quoi les bonnes choses qu'on va profiter de ce chemin, le premier chemin vers l'Iman, qui est l'apprentissage de la science. Et dans l'apprentissage de la science, on avait dit il y a 2 chemins. Le premier, c'est celui d'étudier la religion. Il dit, c'est que ce chemin d'étudier la religion, ça englobe toutes les choses que l'être humain a besoin de connaître pour être bien dans sa religion. Et un nez, ça va lui suffire. Parmi celles-là, la connaissance d'Allah, la connaissance de ses noms, de ses attributs, de ses actes, la connaissance du droit d'Allah sur ses serviteurs, le fait qu'Allah se singularise par le droit à l'adoration, par la seigneurie, al-rububiyya, c'est-à-dire le pouvoir de créer, la possession de l'univers et le fait de gérer l'univers, le fait aussi de connaître la sunna d'Allah, c'est-à-dire comment vous expliquer ça, on pourrait dire comme la coutume d'Allah, par exemple le fait que Allah avant Moussa, quand un peuple lui croyait, il le châtiait. Donc c'est des choses qui se répétaient de la part d'Allah. On appelle ça sunnatullah. Donc la sunna d'Allah chez ces êtres humains, etc. Et aussi le fait de connaître wa ma'rifatu arkanil iman al-ukhra min ma'rifatil mala'ika wal kutub as-sabiqa wal anbiya wa adillatil ba'th ba'da al-maut wa ma yakunu fil qabri wa fi yawm al-qiyamah wa ahwal al-jannati wan nar wal qadar wa ma'rifatish shari'ah wal ahkam mimma yattasilu bil ibadati wal halal wal haram والمعاملات الجارية بين العباد والأخلاق والحقوق ونحوها. Donc là en fait il cite un peu toute la religion. Il cite, on va connaître grâce à ça les règles qu'il faut, les comportements qu'il faut avoir envers les gens, le halal, le haram, etc. ويتعرف بهما أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صفاته وسيرته ومعجزاته ونحوها. Et aussi ça va permettre de connaître le prophète صلى الله عليه وسلم, ses qualités, ses caractéristiques et aussi ses miracles et sa vie. إلى غير ذلك من المطالب الدينية. Et aussi, donc la première chose qu'on va apprendre dans la religion, c'est quoi? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la foi a 73 branches. Et on a vu, A'laha, c'est quoi? La plus haute. Qawlu la ilaha illallah. Donc, de ça, on peut comprendre que la première chose qu'il faut apprendre, c'est la ilaha illallah, la aqidah, etc. Et beaucoup d'autres preuves aussi. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh au Yémen, la première chose qu'il lui a dit, c'est quoi? Mets-les en garde contre les juifs. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit Fad'uhum ila niyashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Appelle-les d'abord à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité adorée qu'Allah et que je suis l'envoyé d'Allah. Donc c'est ça la première chose. Et le bénéfice que l'être humain il va tirer, le grand bénéfice, c'est que, on le comprend en regardant ceux qui ne connaissent pas la aqidah. Ceux qui ne connaissent pas la aqidah, il y a deux groupes. Soit ils vont être sans aqidah, et c'est quoi qui va remplir leur vie? C'est ash-shahawat, c'est-à-dire les passions de dunya. Et ça, c'est la plupart des gens qu'on voit autour de nous, du milieu moyen, de la classe moyenne des gens autour de nous. Ils n'ont pas d'aqidah, donc qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Amasser de l'argent, faire des crédits, sortir avec des filles, tout ce qu'un être humain, tous les désirs animaux et physiques de l'être humain. Et quand tu lui parles de la religion, il dit oh Dieu, c'est pas ça qui va me faire gagner de l'argent. Donc tout pour lui est rattaché à la dunya. Pourquoi? Parce que son cœur il est vide de cette aqidah. Et un autre groupe, leur cœur il va pas se remplir surtout de l'amour de dunya, mais il va se remplir d'une autre aqidah. Et eux ils vont être pires encore que les premiers. Parce que les premiers ils ont pas d'aqidah. Tu leur parles de Dieu, ils disent moi je sais pas, Dieu. J'ai regardé un reportage, moi une personne elle m'a dit une fois, j'ai regardé un reportage, ils ont dit que l'étoile elle était tombée, puis c'est comme ça que tout a commencé, une étoile est tombée, ça fait l'explosion. Et Anne est vraiment la bassesse de l'esprit. Parce qu'ils sont rattachés qu'au shahawat. Ce qu'on appelle shahawat, c'est tout ce qui est les désirs. Donc l'argent, et ce que vous connaissez, etc. Et l'autre groupe, eux, ils auront une aqidah qui va remplir leur cœur. Donc ils auront ash-shubuhat. Donc leur cœur, au lieu de se remplir surtout de l'amour de dunya, il ne va pas rester vide sans aqidah, sans croyance. Ils vont avoir des croyances. Mais comme ils n'ont pas pris la bonne aqidah de l'islam, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être une fausse religion, la philosophie, la spéculation, etc. Comme ils n'ont pas cette bonne aqidah à mettre dans leur cœur et qu'ils cherchent, leur cœur naturellement, ils cherchent une religion, ils cherchent une aqidah, ils vont prendre autre chose et ils vont la mettre dedans. Et ils vont tomber parfois à être encore plus ridicules que les premiers. Parce que quand vous lisez, par exemple, bon, lisez-le pas, mais de toute façon, vous l'aurez tous lu dans les études, etc. Quand on voit la vie qu'ils ont eue, leurs philosophes, ou alors les conclusions à laquelle ils sont arrivés, ou alors les vies qu'ils avaient, etc. Il y a une année, c'était des gens. C'est pas des gens recommandables. Le moins que je puisse dire sur eux, c'est que c'est ça, c'est que c'est pas des gens recommandables. Ou alors des fois, ils arrivent à des comportements d'orgueil. Donc comprenez ça, il y a la chance qu'on a d'étudier la bonne aqidah. Et le fruit que ça va nous donner, et la chance qu'on a, et le bienfait d'Allah envers nous, d'avoir fait qu'on apprend cette bonne aqidah. Alors que les autres qui ne connaissent pas cette aqidah, soit ils vont devenir esclaves de dunya, ou soit ils vont s'enfoncer dans les ténèbres du « je pense que » et « j'ai lu tel penseur, il a dit que » et donc ça ne va jamais finir. Et tu les vois tous entre eux, chacun y répond à l'autre, sans aucune base et sans avoir une base vraiment à laquelle ils reviennent. Al-Thani, donc le deuxième chemin pour avoir la science, c'est-à-dire le deuxième chemin de la science, le premier c'était d'étudier les signes religieux, c'est-à-dire étudier la religion. Al-Thani, at-tafakkuru fi ayatillahi al-kawniyya. Wa qad jama'a Allah usul al-ayatil kawniyyati biqawli inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari wal-fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nasi. وما بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Donc le deuxième chemin après les signes religieux sont les signes dans la création, الآيات الكونية, les signes universels. C'est le fait de cogiter, de réfléchir sur ces signes. Ça aussi c'est un chemin pour connaître Allah. Mais un chemin qui ne se passe pas du premier chemin. Comme ils sont tombés certains spéculateurs et philosophes en disant qu'il pouvait suffire de l'observation. Et que le premier devoir de la personne dans ce monde, c'est de regarder. C'est pas d'étudier le Coran et la Sunna pour eux, c'est de regarder. Parce que quand il va regarder, Il va se poser la question qui est le créateur. Et là, il va répondre. Parce qu'ils ne sont pas partis de la base que la fitra et la croyance au créateur, elle est en chaque être humain. Et que les prophètes, ils n'ont pas été envoyés aux gens pour montrer qu'il y a un créateur. Parce que la plupart des communautés, elles le savaient. Mais pour leur montrer qu'il faut adorer ce créateur. C'était ça l'ennui. Donc, les spéculateurs, ils ont dit, le premier devoir de l'être humain, il y en a même, ils ont dit, c'est le doute. C'est de douter d'Allah. Parce que quand il va douter d'Allah, il va regarder autour de lui. Et quand il va regarder autour de lui, il va arriver à la conclusion qu'il y a le créateur et il sera arrivé au but et à son obligation. Cheikh dit وقد امتدح الله المؤمنين الذين يتفكرون في ملكوت الله حيث قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Donc Allah il a vanté les croyants qui réfléchissent sur les signes d'Allah universel, sur la création des cieux et de la terre. Comme Allah dit dans le Coran, certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans la divergence de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont dotés d'intelligence. Ceux qui mentionnent Allah en étant debout ou assis, ou en étant allongé sur le côté, et qui réfléchissent sur la création des cieux et de la terre. المطالب التي تستفاد من هذا الطريق هذا الطريق خاص بالأمور العقلية أي التي تدرك بالعقل فهو إذن طريق محدود ومن الأمور التي تدرك بالنظر العقلي. Donc, qu'est-ce qu'on profite de ce chemin, le chemin du fait de cogiter sur les cieux et la terre? Il dit le cheikh qu'en fait ça, on va en profiter des choses que rattachées à la raison. On ne va pas en retirer que telle ou telle chose elle est halal ou haram. On ne va pas en retirer ça. Nous, on va en retirer des bénéfices de la raison. Premièrement, إثبات وجود الله ووحدانيته وكثير من أفعاله التي تشهد بالتفكر في مفعولاته ومخلوقاته وصفاته التي تثبت بقياس الأولى. Donc, le fait de réfléchir sur les cieux et la terre, ça permet d'affirmer l'existence d'Allah et son unicité. Et aussi, ça permet de connaître beaucoup de ses actes. Comme le fait, par exemple, la création, c'est un acte d'Allah. Et celui qui réfléchit sur les cieux et la terre, il connaît en réfléchissant, il arrive à la connaissance de cet acte d'Allah, qui est la création. Donc en réfléchissant sur les actes d'Allah, sur ses créatures, et aussi on peut connaître aussi certaines caractéristiques d'Allah, par la raison toujours, comme par exemple, LM, celui qui cogite sur les cieux et la terre, il lui paraît évident que celui qui l'a créé, il est doté de Ilm, c'est-à-dire de science. Ou alors Al-Qudra, par exemple, la capacité. C'est pour ça que quand vous regardez les Tawaif, c'est-à-dire certains groupes qui sont arrivés plusieurs temps après les Sahaba, ils ont affirmé pour Allah, eux ils ont dit on affirme pour Allah que ce que la raison affirme. Et eux-mêmes ils ont divergé. Donc par exemple, Al-Mu'tazila, ils donnent à Allah 7 qualités. Ils disent ce sont ces 7 qualités que lorsqu'on réfléchit, on y parvient. N'importe quelle raison humaine, il parle par exemple le fait que de savoir qu'Allah a de la science, de la capacité, ça la raison humaine l'accepte. Mais ce qui est dans le Coran et la Sunna, on ne l'accepte pas. Après, Al-Asha'ira, ils ont rajouté, si je ne me trompe pas, 6 qualités, ils ont dit 13. Et leur divergence, elle prouve le mauvais fondement de leur théorie. Parce que si la raison suffisait à parler d'Allah et à définir ce qu'il faut croire vis-à-vis d'Allah, on pourrait leur poser la question, quelle raison? Parce que la raison, elle diverge avec la divergence des sociétés, des époques, etc. La preuve, c'est que Al-Mu'tazila, en se basant sur la raison, ils ont dit, on affirme pour Allah 7 qualités, et les Asha'ira, ils ont dit, on affirme pour Allah 13 qualités. Donc à la fin, est-ce que la religion, c'est comme ça? On peut diverger sur Allah, moi je peux croire qu'il y en a 7, et toi tu peux croire qu'il y en a 13. A'udhu billahi ani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai laissé chez vous une chose, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez pas. Le livre d'Allah et la Sunna. Donc est-ce qu'à propos d'Allah même et dans la croyance même, Allah il nous a laissé à nos raisons et chacun il choisit un peu ce qu'il veut et il diverge? Non. Et la preuve que la raison, ce n'est pas une bonne base de retour pour parler de la croyance en Allah, c'est que les gens qui sont retournés vers elle, eux-mêmes, ils ont divergé. Alors que ceux qui sont revenus au Coran et à la Sunna pour parler des qualités d'Allah, ils n'ont pas divergé. Ici tous les mêmes noms et les mêmes attributs pour Allah. إثبات إمكان البعث بعد الموت بالأدلة العقلية وشهود الحكمة في الجزاء والحساب يوم القيامة. Donc aussi là, le fait de réfléchir sur les cieux et la terre, ça permet d'affirmer la possibilité de la résurrection après la mort. Par exemple, quelqu'un qui voit une terre désolée sur laquelle la pluie elle tombe et la terre elle redevient fertile, donc par comparaison il peut arriver à la conclusion que effectivement les morts, il n'y a rien qui empêche qu'eux aussi ils revivent. Donc tout ça avec la méditation. Et aussi le al-jaza wal-hisab, c'est-à-dire la sagesse qu'il y a dans le fait qu'Allah va récompenser des gens et va leur compter leurs actions, ça aussi l'être humain il peut y parvenir avec sa raison en méditant. Parce que l'être humain il peut se demander comment yani, tous ces gens ils font des actions et ils vont pas être récompensés, et les injustices qu'ils font les uns envers les autres elles seront pas rattrapées, etc. Elles seront pas rendues. Donc ça c'est pas possible yani, logiquement c'est pas possible, c'est pas acceptable. Donc l'être humain en réfléchissant à ça, il arrive à la conclusion que voilà, il y aura une résurrection, etc. Et comme je disais tout à l'heure avant qu'on arrête, c'est ce chemin là on ne peut pas le prendre indépendamment du premier chemin qui est l'apprentissage de la religion. Et c'est l'apprentissage de la religion qui nous a poussé à ce chemin qui est le fait de réfléchir, comme on l'a vu. Allah, dans le Coran, il nous incite à réfléchir sur les cieux et la terre. Mais pas indépendamment de l'apprentissage du Coran et la Sunna, comme ils l'ont fait par exemple les philosophes. Les philosophes, c'est des gens. La philosophie, en fait, c'est quoi ? Philosophie, ça veut dire chercher la sagesse. Ça veut dire, ils cherchent la sagesse, ils cherchent la vérité. Avec quelle base ? Quelle base ils ont ?
La raison.
La raison, c'est tout. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à beaucoup de divergences et qu'ils arrivent à des conclusions qui sont mauvaises. Or, la bonne référence pour connaître la vérité et connaître pourquoi le monde y marche et comment il marche, c'est pas la raison seule. C'est le Coran et la Sunna. Et la preuve que c'est pas la raison seule, c'est que la raison, comme j'ai dit, elle diverge selon les environnements. Et la preuve, c'est qu'eux-mêmes, soi-disant ces grands esprits qui ont médité, eh ben, ils sont arrivés à des conclusions différentes. Et parfois, ils arrivent à des conclusions que n'importe qui a un peu de raison, il réfute. Par exemple, des philosophes grecs qui disaient qu'Allah il a un début et une fin. Si ça ne contredit pas la raison, je ne sais pas ce qui contredit la raison. Il y en a, ils ont dit Allah il connaît les choses en globalité, mais pas en détail, etc. Donc regardez comment ils sont arrivés, rien qu'avec la raison, en cherchant trop loin, au contraire de ce que la bonne nature elle accepte vis-à-vis d'Allah. N'importe quelle personne dotée de raison avec une bonne nature, il comprend qu'Allah il connaît toutes choses. Rien qu'en regardant dans les cieux et la terre, il se dit que celui qui a créé tout ça, il connaît forcément toutes choses et tous les détails. Et eux, en poussant trop loin, ils sont arrivés à l'inverse. الاستنباط من نصوص الكتاب والحكمة بشرط أن لا يعارض أن يعارض المستنبط مع علم من نصوص أخرى وأن يتفق مع اللغة. Donc aussi ce qui va se passer, le fruit qu'on va tirer de la méditation aussi, entre guillemets la méditation, le fait de faire marcher son esprit sur les signes d'Allah, c'est que la raison elle va se renforcer et ça va donner une capacité à l'être humain de sortir des ahkam shari'a, c'est-à-dire des règles et des jugements du Coran et de la Sunna, à condition que son interprétation du Coran et de la Sunna elle ne contredise pas un texte donc du Coran et de la Sunna, et que dans la langue arabe elle soit acceptable. C'est pour ça que par exemple il y a des ulama, ils tirent d'un seul hadith, ils tirent 50 ou 100 ce qu'on appelle fa'ida, c'est-à-dire des fruits à tirer du hadith, des significations. Pourquoi ? Pour leur intelligence, leur force de compréhension. Ibn Taymiyyah par exemple, on lui posait une question, il écrivait un livre sans chapitre, sans rien, il mettait son doigt, il mettait son stylo et hop, ça écrivait tout seul. Et ça c'est une des caractéristiques des ulama des musulmans. Vous voyez leur force quand vous regardez ce qu'ils ont écrit, d'intellect et de compréhension. Et ça aussi faut savoir, il faut connaître ça, connaître ce que les ulama ils ont écrit dans l'islam et connaître c'était quoi leur capacité, etc., pour pas avoir le complexe que certains frères ils ont vis-à-vis de l'Occident. Ouais, regarde les Occidentaux, ils vont bientôt aller sur Mars, puis on est là, etc. Nous on n'a pas à avoir honte, parce que ce que les ulama ils ont travaillé, c'est pas du blabla, c'est pas du je pense que, ou on a émis telle théorie qui dit que. Ce que les ulama ils ont travaillé, c'est les versets du Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des choses concrètes et qu'ils ont appliquées dans leur vie, et quand on lit leur vie on voit qu'ils ont appliqué tout ça. Et quand vous regardez le nombre de tomes qu'il a écrit Ibn Hajar, rien qu'avec lui, ça te suffit pour pas avoir honte et pour ne pas être complexé vis-à-vis d'aucune civilisation. Et ça, il faut connaître l'héritage des musulmans. Parce qu'il y a beaucoup, ils regardent les scientifiques occidentaux, ou alors les écrivains, etc., et ils sentent un certain complexe. Et ils disent, subhanallah, dans l'islam, on n'a pas tout ça, eux, ils sont plus intelligents que nous, et ça le fait douter sur la véracité de l'islam. Mais il faut regarder ce qu'eux, ils disent, déjà, c'est pas tout de la vérité, c'est pas tout, c'est beaucoup de théorie, c'est beaucoup de, je pense que, de philosophie. Alors ce que les ulama de l'islam, ils ont travaillé, c'est pas, entre guillemets, ce qu'on appelle du blabla. C'est pas de la spéculation, c'est pas de la théorie. C'était que des choses fortes. Et c'est que des choses concrètes qui servent aux êtres humains. Et ils ont travaillé énormément. Quand vous voyez Cheikh Al-Albani, par exemple, on dit qu'il passait, il montait sur l'échelle pour travailler un livre, ou pour chercher un livre, et finalement, il passait plusieurs heures en haut de l'échelle. Il n'arrivait pas à redescendre, et il lisait tout nu. Et on raconte que Cheikh Al-Albani, il avait lu toute Maktabatu Zahiriya, c'est-à-dire la bibliothèque de Damas, deux fois. Alors qu'à notre époque, les étudiants, ils sont en train d'essayer de faire l'authentification des textes, d'éditer les livres, etc. Et lui, il avait lu tout ça deux fois. Donc il faut être fier de l'héritage des musulmans et des ulama d'islam, et surtout des ulama al-sunna. القياس والاجتهاد حسب ضوابطه في أصول الفقه ومن المعلوم أن هناك أمورا لا مجال للقياس وللعقل في إثباتها أو نفيها وإنما مدار ذلك على النصوص الصحيحة مثل العبادات الأمور الغيبية مثل صفات الله الخبرية ما يتصل بالملائكة والنبيين والقدر وما يكون بعد الموت وأحوال القيامة ونحوها. La quatrième chose que l'être humain va tirer de ce chemin, c'est Al-Qiyas, c'est-à-dire l'analogie, et Al-Ijtihad, mais selon les conditions que la science dont je vous ai déjà parlé, Usul Al-Fiqh, elle a donné au Qiyas. Qiyas, ça veut dire faire une comparaison pour en sortir un jugement. En fait, le Qiyas, c'est quoi? C'est par exemple, l'islam, il parle de telle chose, et il dit sur telle chose, tel jugement, par exemple, haram, par exemple, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise que la chose elle est haram pour telle raison. Donc on a quoi? On a une chose, un point. On a son jugement, c'est quoi? Le jugement, al-hukm. Al-hukm, c'est qu'il est haram. Et on a la raison pour laquelle il est haram, c'est al-illah. Et à une époque, il apparaît autre chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé. Et il comporte la raison pour laquelle cette chose dont le prophète a parlé a été interdite. Donc cette chose, elle va être, les ulama, ils vont faire un qiyas. Cette chose, elle comporte al-illah, c'est-à-dire le point qui a fait que l'autre chose dont le prophète a parlé est interdite. Donc cette autre chose aussi, elle va être interdite par le qiyas. Il n'y a pas de hadith qui en parle, mais en comparant cette chose avec la chose que le prophète a interdit, on va l'interdire. C'est ça qui s'appelle le qiyas. Et le qiyas, il a des conditions. Parmi les conditions du qiyas, c'est que le premier, donc dans la première chose, le jugement qui concerne la première chose, il soit tiré du Coran et de la Sunna ou de l'Ijma. Ce ne soit pas lui-même un jugement qui est tiré d'une fatwa ou alors d'un ijtihad. Il faut que ce soit un texte, et aussi qu'il y ait un point commun entre les deux choses, et que ce point commun, ce soit lui la cause du jugement, du premier jugement, etc. Et la science de Usul Fiqh, donc je vous en ai déjà parlé, et ça comporte toutes ces connaissances sur Al-Qiyas. Et il dit Shir, donc ça c'est des parenthèses en fait que Shir fait, il dit il est connu qu'il y a des choses que le Qiyas, donc l'analogie et la raison, ne peuvent ni affirmer ni renier, et elles ne dépendent que des textes. Par exemple, les adorations. Un être humain seul dans la jungle, il ne peut pas arriver à la conclusion qu'il faut faire 5 salats par jour. La première lorsque le fajr se lève, en 2 rak'a, la deuxième après le zawal en 4 rak'a, etc. Ça, s'il n'y a pas un prophète pour montrer ça aux gens, pour montrer que c'est ça qu'Allah veut des gens, la raison seule, elle ne peut pas y arriver. Et ça, c'est une des preuves de l'insuffisance de la raison dans la religion, et qui est obligée que la raison doit se soumettre à la religion. Aussi, par exemple, l'ibadat, al-umur al-raybiya, donc les choses invisibles. Les choses invisibles, la raison, elle ne peut pas, l'analogie, elle ne peut pas. Par exemple, je ne peux pas maintenant, par analogie, définir qu'un ange, il ressemble à telle ou telle chose. Parce que pour ça, il faudrait que j'ai vu un ange, ou que je connaisse quelqu'un qui a vu un ange et qui m'en parle, ou que je connaisse une chose qui ressemble à un ange. Oh, je connais pas tout ça. Donc la raison, elle va pas me suffire pour définir, par exemple, ce qu'est un ange ou ce que sont les choses invisibles. Et c'est pour ça que vous comprenez par là les grosses erreurs de ceux qu'on appelle dans l'islam al-aqlaniyin. Al-aqlaniyin, c'est ceux qui prennent pour seule référence la raison. Donc ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand une mouche tombe dans un plat, il faut l'enfoncer et l'enlever avant de boire, parce que dans une des deux ailes il y a un remède et dans l'autre il y a une maladie. Ils disent non, la raison elle confirme pas ça. Ou alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de al-habba sauda, le cumin noir, que c'est un remède pour toute chose. Ils disent non, la raison elle accepte pas ça. Ou alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a informé qu'il allait venir al-masih ad-dajjal, qui est un homme parmi les fils d'Adam avec ses yeux, etc. Vous connaissez, hein, il faut lire les hadiths sur comment il est. Ils disent non, ça c'est pas possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a informé que Isa il allait revenir, et ils disent non, ça c'est pas possible. Donc si tu leur dis mais qu'est-ce que tu dis de tous ces hadiths, soit ils les rejettent et ils disent non, on prend pas ces hadiths, ou soit ils vont dire non, les anges, en fait il faut pas comprendre par là qu'il y a des anges, il faut comprendre qu'en fait ce sont des forces spirituelles présentes dans chaque chose et qu'ils sont des significations présentes en chaque chose, et qu'Allah est exprimé par les anges. Mais les anges, sinon, ils n'existent pas. Donc, ils ont tout remis à la raison. Or, la raison, maintenant, la raison sur quoi elle est basée, c'est-à-dire la connaissance de l'être humain. Il faut leur répondre sur leur terrain, parce qu'ils n'acceptent pas le Coran, la Sunna. Et ben, on va répondre avec la raison. Comment elles sont, d'où elles viennent les connaissances d'un être humain? Si on réfléchit deux secondes, d'où elles viennent? Comment je sais qu'un chat, c'est de telle façon ou telle façon? Avec quatre pattes, des moustaches. Parce que je l'ai vu. Donc avec ma vue. Comment je sais que quand on tape sur une cloche, ça fait tel son? Parce que je l'ai entendu. Comment je sais qu'un fromage, ça sent telle et telle façon? Parce que je l'ai senti. Donc toute la connaissance qu'un être humain est là, il l'a eu que par ses sens, ses cinq sens. Or, les sens de l'être humain, est-ce que c'est des sens bioniques avec des grandes super capacités, ou est-ce qu'ils sont limités? Les sens des êtres humains, ils sont limités. Donc, la connaissance de l'être humain qu'il va avoir par lui-même, elle sera limitée ou pas? Donc, il peut très bien se trouver des choses dans l'univers que les sens de l'être humain, ils ne peuvent pas atteindre. Exemple, si je mets un bonhomme à 100 km de toi dans le noir, c'est sûr que tu ne vas pas le voir. Est-ce que parce que tu ne le vois pas, tu as le droit de renier son existence? Non. Accuse plutôt tes capacités à toi de connaissances qui sont faibles et qui sont limitées. Donc pourquoi vous reniez l'existence des anges, l'existence des djinns, l'existence de Al-Masih Ad-Dajjal, le retour de Isa? Ils renient les châtiments de la tombe, alors que ça c'est des choses, si elles existent, et elles existent, mais on parle dans leur dialogue, si elles existent, de toute façon vos capacités elles ne peuvent pas les atteindre. Donc pourquoi vous reniez ce que vos capacités elles peuvent pas atteindre? Dites plutôt que vos capacités sont limitées et que vous croyez à ce qu'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils vous ont dit et ce dont ils vous ont informé. Vous avez compris ça? Cheikh Al-Uthaymeen il explique ça dans, hein, vous prenez son tout petit livre I'tiqad, comment ça s'appelle, Usul al-Iman, ou je sais plus, le petit livre qu'ils ont traduit aux éditions Anas sur les six piliers de l'Iman. Ça a l'air d'un petit livre, il ne faut pas le lire comme ça. Moi, je sais déjà qu'il faut croire aux malaïka et aux prophètes. Il y a beaucoup de frères qui lisent les livres comme ça. Tu vois, ça je sais déjà. Pourquoi on nous dit toujours il faut toujours lire les livres de Aqidah? Combien de frères ils m'ont déjà dit pourquoi toujours Tawhid, Tawhid, alors que je lis et je connais déjà. Mais si tu fais attention à ce qu'il dit Cheikh Al-Uthaymeen, eh ben, par exemple, tout ce que je viens de vous expliquer sur la perception et tout, eh ben, Cheikh il le dit dedans. Mais il le dit en quelques mots, parce que c'est ça la force du Cheikh. C'est qu'en quelques mots, il t'exprime plein de sciences. Donc, il faut lire avec concentration. Et tout ça, vous revenez et c'est expliqué dedans. Je ne sais plus dans quel chapitre, mais ça vous forcera à lire de A à Z. Aussi, par exemple, le qiyas, ou la raison, elle ne peut pas définir les qualités d'Allah, ou les qualités des anges, ou les prophètes, ou le destin, et toutes ces choses-là, toutes les choses de l'invisible. Donc, thaniyan, c'est quoi le deuxième chemin pour arriver à l'iman? C'est quoi? Pour voir si... Le premier chemin, c'est l'ilm. Donc le deuxième, c'est l'amal, les actes. Al-amal alladhi yataqarrabu bihi ila Allah wa yatahaqqaqu bihi wasf al-ubudiyyati lahu subhanahu. Yanqasimu aydan ila qismayn. Donc l'action, ce qui est voulu par là, les actes, c'est les actes par lesquels on se rapproche d'Allah et qui méritent le nom de adoration, et par lesquels l'être humain il concrétise l'adoration, son adoration envers Allah. Et elle se divise en deux. Elle est de deux sortes. Al-awwal at-tathhir wa huwa at-tanazzuh wal ibad 'an kulli ma yughdhibu Allah min ash-shirk wal ma'asi wa khasa'is al-jahiliyyah wa yatahaqqaqu dhalik bil kufr bit taghut wat-tawbah wat-tawbati min al-ma'asi wa mujadahati wa mujahadati an-nafs fi tahqiq shu'ab al-iman allati yakunu tahqiquha bi tarki ma naha 'anhu min al-kufr wash-shirk wal-fusuq wal-fusuq wal-'isyan. Désolé, parce que des points, il y a des points, en fait, c'est des virgules. Wal-fusuq wal-'isyan wa muqawamati fitani shubuhat wash-shahawat. Donc le premier point, les actions, elles sont de deux sortes. La première sorte d'action, c'est at-tathir. Tathir, ça veut dire la purification. Donc en fait, ce sont les actions comme le fait de mécroire au tawhid. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans le Coran ? Wa laqad arsalna fi kulli ummatin rasulan wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa ijtanibu at-tawhid. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour dire aux gens: adorez Allah et écartez-vous du tawhid. Donc il y a une première sorte d'acte qui est le fait de s'écarter des mauvaises choses. Donc ce sont des délaissements. Parmi ces délaissements, al-kufr bit-tawhid. Ça, c'est le plus grand et le premier qu'il faut faire. Ça veut dire rejeter le shirk, renier ce qui s'associe à Allah et mécroire aux divinités que les gens adorent avec Allah. Aussi le fait de s'éloigner des shubuhat, donc des innovations, etc. Et s'éloigner des péchés. Donc ça, c'est une première sorte d'action. C'est le fait de s'éloigner de tout ce qui est mal. Al-thani al-tazkiyah. Donc le deuxième, bien sûr, après qu'on soit purifié et écarté de tout ce qui est mauvais, التزكية, donc il y a le fait de s'améliorer. التزكية وهو اعتقاد الإيمان الصحيح والتقرب بالأعمال الصالحة إلى الله والتحمي بالأخلاق الفاضلة وأداء الحقوق والالتزام بالمعاملات المشروعة وبالجملة هو التزام بكل ما يرضي الله من الأقوال والأعمال والمعتقدات. Donc la deuxième sorte, c'est sur des actes concrets qu'on fait. Donc c'est quoi? C'est le fait, tout ce qu'on a déjà cité, le fait de croire au iman, c'est-à-dire au six piliers de la foi, d'accomplir les obligations, de respecter le droit, de rendre le droit aux gens, etc. وَيَتَحَقَّقُ. En fait, c'est, pour résumer, c'est tout ce qui satisfait Allah, tout ce qu'on fait qui satisfait Allah. وَيَتَحَقَّقُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ عَنْ عِلْمٍ بِهِ وَبَصِيرَةٍ فِي دِينِهِ وَمُجَاهَدَةِ النَّفْسِ فِي تَحْقِيقِ شُعَبِ الْإِيمَانِ عِلْمًا وَعَمَلًا والإكثار من ذكر الله بالقلب والجوارح واللسان والاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان بمراقبة الله واستشعار مراقبته والإخلاص له في كل أعماله والنصيحة لله ولعباده والصبر على ذلك. Donc le cheikh cite beaucoup de choses. En fait, comment se concrétise cette deuxième partie des actes? C'est le fait d'adorer Allah avec science et avec clairvoyance dans la religion. Donc pas, c'est quoi le contraire de science et clairvoyance? Le fait de faire par ignorance, par imitation ou par simple habitude. Et le fait de combattre son âme pour réaliser toutes les branches de la foi et le fait d'invoquer beaucoup Allah, que ce soit avec sa langue ou son cœur ou ses actes, et de faire des efforts pour arriver au degré de l'ihsan. Donc de gravir les degrés dans la foi en Allah, etc. Donc le fait de la sincérité envers Allah, le conseil pour les êtres humains, la patience. بعض النصوص التي تدل على أن الدين يقوم على هذين الأمرين. Donc après il va citer il cite ici des preuves, des textes qui montrent que la religion elle se base sur ces deux piliers: la purification, donc l'éloignement des mauvaises choses, et التزكية, donc le fait de s'améliorer en accomplissant des choses. قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Donc Allah dit au prophète: prends de leur bien une sadaqa, donc une aumône, par lesquelles tu les purifies, et watuzakihim. Moi, c'est un peu dur à traduire. Tutahirum, ça veut dire tu leur écartes des mauvaises choses, watuzakihim, tu les améliores. Qawluhu ta'ala, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa. Donc le verset qui dit: celui donc qui mécroit au taghut et qui croit en Allah, il s'est accroché à l'anse la plus solide. Donc on voit que, ça c'est une parenthèse, Par les conditions, la plus grosse condition de la foi et de la ilaha illallah, c'est quoi? Allah, il a dit d'abord. Donc celui qui mécroit au tawhid et qui croit à Allah. Donc il faut d'abord croire au tawhid. Et c'est ça la plus grosse condition de la ilaha illallah. Il faut d'abord mécroire au tawhid. Et c'est une des preuves que certains ulama ils ont pris, et ça c'est le jumhur, la majorité des ulama, pour dire que celui qui fait du shirk akbar, ça veut dire le grand associationnisme, il n'est pas excusé pour son ignorance. Parce qu'il ne peut pas avoir la foi s'il adore Allah et à côté il adore d'autres choses. Même s'il ne sait pas que c'est pas bon, ou alors il a appris comme ça depuis qu'il est petit, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on prend en compte. Ce qu'on prend en compte, c'est l'état de la personne. Il est en train d'adorer Allah et il n'a pas fait le kufr bit-tawhid. Il n'a pas mécru à ce qu'il s'adore en dehors d'Allah. Au contraire, il l'adore et il est dirigé vers ce qui des idoles et des autres divinités. Donc ce soit les seyyids, les walis et je sais pas quoi, les tombes, etc. Donc bon, c'est pour ça que Jumhur et le ulama, la majorité des ulama, ils disent que dans les questions de aqida, de shirk, là, il n'y a pas d'excuse pour l'ignorance. C'est-à-dire que si la personne est prétend être musulmane et elle commet dans le tawhid des choses qui annulent la ilaha illallah, elle n'est pas excusée. Même si elle a grandi, parce qu'il y en a beaucoup, toujours on répète la même chose. Ils ont grandi, dans, ouais, mais il connaît que ça depuis qu'il est petit, etc. Ça, c'est pas une excuse. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'état de la personne. قال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قومي. Donc Youssouf, quand il parlait à ses compagnons dans la prison, il a dit, j'ai laissé la religion d'un peuple. Donc pour montrer le délaissement des mauvaises religions et des mauvaises croyances. Donc ça ne suffit pas d'adorer Allah. Il faut adorer Allah en reniant ce qui s'adore en dehors d'Allah. Donc voilà, c'est fini ce cours-là. Subhanakallahumma wa bihamdik. Juste une révision, c'est quoi l'épreuve dans le fait. Les bases de lesquelles on tire le fiqh, la jurisprudence. Hein? Ijma', Qur'an, Qiyas, les hadiths authentiques, et les paroles des fatawa des sahaba. Mais avec quelles conditions? J'ai cité trois conditions, j'espère que vous avez retenu. J'avais cité trois conditions pour que les paroles d'un compagnon ou des compagnons soient une preuve dans le fiqh. Qui ne contredisent pas un hadith, mais d'une contradiction, on avait dit, totale. De tel point qu'on ne puisse pas allier entre le hadith et le athar. À tel point qu'on avait, je ne sais pas si vous l'avez cité, Ali ibn Abi Talib, et on lui disait que, puisqu'il fouettait celui qui avait vécu, bu de l'alcool, 80 fois. Et on lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait que 40 fois. Il a répondu, et Omar l'a fait 80 fois, et le tout est sunnah. Donc il a assemblé entre l'action de Omar et l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas rejeté. Parce qu'il a vu que le fait de faire 80, c'est pas une contradiction au fait de faire 40. Après, la deuxième condition, c'était, bon, bien sûr, il faut que le athar soit authentique. Ça, on l'a pas cité, c'est évident. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait une divergence entre les compagnons sur la question. Par exemple, une question sur laquelle on n'a pas de texte. Et les compagnons, ils divergent entre eux. Donc s'ils divergent entre eux, on ne peut pas... Il faudra chercher lequel d'entre eux a raison. On ne peut pas prendre l'un d'entre eux et rejeter les autres comme ça, sans condition. Sauf, j'avais dit un truc sur ça. Tu te souviens ? C'est que certains ulama, ils disent que malgré ça, tu peux quand même, quand les sahaba, ils divergent, prendre certaines de leurs paroles comme ça, sans chercher. C'est quand, par exemple, Abu Bakr et Omar, ils disent quelque chose, et le reste des compagnons, ils disent autre chose. Des ulama, ils disent... Pour t'en tirer, tu prends ce qu'il dit Abou Bakr et Omar et tu les imites. Et la troisième condition pour agir par la fatwa d'un compagnon, et j'avais dit ça, c'est même pour les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a un imam qui agit par ce hadith auparavant. Parce que si tous les imams d'avant se sont réunis pour délaisser ce hadith, donc c'est une preuve de sa faiblesse, même s'il est fort et authentique au niveau de sa chaîne de transmission. Et parmi les exemples à ça, et ça pose beaucoup de problèmes aux frères quand ils partent au Hajj et tout, ou en Umrah, le fait que quand on est au 10e jour de Dhul Hijjah, donc le jour de l'Aïd, et on est à Mecca, donc il faut commettre certains actes pour pouvoir se libérer de l'état d'Ihram, pouvoir enlever ses vêtements, prendre sa douche, mettre son kamis, etc. Et donc il y a un hadith qui dit que celui qui n'a pas fait le tawaf à la Mecque, à la Kaaba, avant le Maghreb, doit remettre son état d'ihram. Même s'il avait réussi à faire les choses nécessaires pour l'enlever, il faut, s'il réussit pas à faire son tawaf, il revient et remet l'ihram. Donc il enlève, s'il a mis un qam et son qam, il se remet en état d'ihram. Et ce hadith, il y a un hadith qui dit ça en fait, texto, et au niveau de la chaîne de transmission, il est authentique. Or, tous les ulama d'avant, t'en trouves pas un qui a dit ça, qui a dit ce qui correspond à ce hadith. Donc c'est un ijma, c'est un consensus sur le délaissement de ce hadith, qui prouve que ce hadith en fait il est faible. Et ça, il y a beaucoup d'ulama qui l'ont dit. Donc ça, c'est le hadith, il remplit pas une condition qui est que les ulama aient agi avec ce hadith. Et au contraire, on peut trouver des hadiths qui vont être faibles dans la chaîne de transmission, mais qui vont être forts, authentiques, parce que les ulama l'ont accepté. Par exemple, vous connaissez un exemple, obligé. Il y a un exemple, tout musulman doit le connaître. Comment ? Non, ça c'est pas. Il y a beaucoup de ulama qui l'ont accepté, mais c'est pas un consensus. Mais c'est vrai, c'est une bonne. C'est vrai que le hadith de Bismillah, qui dit qu'il faut dire Bismillah avant les ablutions, au niveau de sa chaîne, il est faible. Et beaucoup de ulama, ils ont agi par ce hadith. Ils ont dit il est préférable de dire Bismillah. Donc ça fait que le hadith il se renforce. Mais le hadith de dans Ibn Majah, c'est-à-dire le hadith qui dit comme quoi l'eau, ma'u ta'hur, la yunajjisuhu shay. Donc l'eau est pure et purifiante, rien ne la rend impure. Et dans Ibn Majah, il y a un rajout qui dit illa idha taghayyara bi najasatin wa qa'a fihi. Yani ma'na al hadith. أو غير طعمه ولونه و رائحته. Donc il y a un ajout dans Ibn Majah sur ce hadith qui dit donc rien ne change l'eau, sauf l'eau est pure, sauf si elle change à cause d'une impureté qui est tombée dedans et qui a changé sa couleur ou son goût ou son odeur. Et au niveau de la chaîne de transmission, tous les ulama du hadith ils disent que ce hadith, cet ajout qui explique que si l'eau change à cause de, admettons, l'urine, et que l'urine a changé l'odeur de l'eau, l'eau devient impure, au niveau de la chaîne de transmission, elle est faible. Mais tous les ulama d'avant sont d'accord sur le sens de ce hadith. Et ils disent qu'effectivement, si l'eau change par une impureté qui tombe dedans et qui change son goût, son odeur ou sa couleur, alors l'eau devient elle-même najasa, impure. Donc on n'a pas le droit ni de l'utiliser, ni dans une impureté, ni pour la vie quotidienne. Donc ça, c'est un consensus qui a fait que ce hadith, on peut le raconter, parce que son sens, il est vrai.